pour cette mission. Ce soir, on va parler de quelque chose d'assez simple et que je voulais voir ce soir avec vous. C'est la différence entre la croyance et la foi. Et aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, on a beaucoup de croyances. Chacun a sa croyance à sa manière, des propres convictions qui se sont créées ou auxquelles ils adhèrent, des croyances peut-être faites sur mesure parce que certaines croyances ne leur vont pas ou certaines religions ne leur correspondent pas. Et il y a cette question qui revient souvent, est-ce que tu crois en Dieu, ce mot de croire, mais que veut-il dire? On cherche toujours à espérer en quelque chose, avoir une raison de vivre, et comme on l'a entendu pendant nos chants, pendant le témoignage, pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, il est notre raison de vivre. Et c'est humain de chercher une raison de vivre, c'est humain de nous chercher une raison pourquoi nous sommes sur cette terre. Et dans le fait de croire, de la croyance, j'ai regardé la définition du mot croire, sans rapporter à, considérer comme vrai ou probable, sans en être vraiment sûr. Et ce soir, on va lire un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 14. On va voir que, justement, le verbe croire est cité à plusieurs reprises, mais on va aller voir l'étymologie du mot croire, au verset 14, Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et là, vous allez me dire, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais on va regarder à l'étymologie du mot croire. Et ce soir, on va voir la recette du salut. C'est ça qui est le plus important. Et la semaine dernière, j'ai fait pour la première fois une quiche. Et je suis allé voir la recette, justement, pour réaliser ça. Mais ma mère était un peu sceptique. Je l'ai plutôt bien réussi avec quelques petits couacs. Mais ce soir, on va voir la recette du salut. Et c'est peut-être ça le plus important. C'est sûrement ça le plus important. Dans ma première partie, j'ai marqué « croire ne suffit pas ». Et on va voir que le verbe « croire » dans le texte qu'on a vu, qui est cité à 5 reprises, c'est... j'ai pas fait grec en LV3, mais c'est du verbe « pisteo », qui veut dire « faire confiance », « avoir confiance », « être persuadé », « placer sa confiance en », « se confier en ». Et « pisteo », le mot grec qui vient du mot, toujours grec, « pistis », qui veut dire « la foi ». Donc c'est pas juste croire, c'est pas juste une croyance, comme on pourrait dire je crois que j'ai fermé la porte de la maison en partant. Non, non, c'est vraiment une conviction, c'est être persuadé de quelque chose. Et il y a ce passage dans la transcription dynamique, donc une traduction de la Bible un peu plus complète, qui dit « Dieu a tant aimé le monde, tant aimé les hommes, pardon, qu'il a donné son Fils, son unique, pour que qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. » Ceux qui placent leur confiance en lui. Et ça parle davantage que le verbe croire. Parce que souvent, il y a cette question qui revient, et moi je peux échanger avec mes amis qui ne sont pas croyants ou qui ne vont pas à l'église régulièrement. Et il y a cette question qui est-ce que tu es croyant? Et là, il y a de plus en plus cette réponse, croyant mais non pratiquant. Et là, je comprends pas trop cette phrase. C'est comme si je suis footballeur mais non pratiquant. Nous footballeurs, mais t'es pas footballeur alors. Qu'on puisse voir ce soir ce qui se cache derrière. Et ce soir, je suis vraiment pas venu pour parler d'une religion, d'un nouveau mode de pensée peut-être qui deviendrait à la mode. Non, mais vraiment d'une foi véritable basée sur les Écritures, sur la parole de Dieu, sur Dieu lui-même. Croire ne suffit pas pour être sauvé. Ce que Dieu nous demande, c'est de placer notre confiance en lui. et non simplement de croire en lui. Croire ne suffit pas. Et peut-être quelqu'un, ce soir, a des croyances ou des convictions. Certaines croyances peut-être sur mesure, certains croient. Il y a des croyances depuis la nuit des temps, des croyances dans la réincarnation, des croyances dans les dieux de la nature. Je ne suis pas venu pour parler de tout ça, je suis venu pour parler de la parole de Dieu et du Dieu qui, comme on l'a lu, a envoyé son Fils unique sur la croix. On a parlé, on l'a chanté, la croix. Il est venu pour notre salut. Et on va voir tout ça ce soir. Mais dépasser juste le terme croyant. Ce soir, je ne viens pas promouvoir une religion, mais vraiment vous encourager à une relation avec Dieu. Toute la parole de Dieu, tout ce livre merveilleux a été fait juste pour une chose, pour que nous voyons, nous ayons connaissance de l'amour de Dieu pour nous, qu'il a envoyé son Fils unique pour nous, et on l'a lu. Pourquoi nous pouvons placer notre confiance en Dieu? Parce qu'il est digne de confiance. Et comme on l'a entendu dans le témoignage, il est digne de confiance. Et peut-être que ce soir, il y en a plusieurs qui ont été déçus parce qu'ils ont fait confiance, ils ont placé leur confiance en quelqu'un, en quelque chose, et ce quelqu'un ou ce quelque chose n'était pas digne de confiance. Et je pense que chacun dans cette salle, on peut tous témoigner d'un moment où on a été déçu par un homme, par quelque chose. Et on a sûrement aussi déçu, j'ai été déçu parce que je suis qu'humain, parce que je suis imparfait. Mais ce soir, je vais parler du fait de placer sa confiance dans le seul vrai Dieu, celui qui, comme le thème de cette mission, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il n'a pas de changement ni ombre de variation. Et en Dieu, on peut placer notre confiance parce qu'il ne nous décevra jamais. Les hommes déçoivent, mais Dieu ne déçoit jamais. Dans cette deuxième partie, je voulais voir avec vous, la foi vient de la révélation. Si croire ne suffit pas, on va voir que la foi est plus importante que la croyance. Et c'est plus fort, ça implique plus de choses. Croire en quelque chose n'implique en rien. Et même croire en quelque chose, on n'est pas véritablement sûr, comme on a lu la définition. Mais avoir sa foi, baser sa foi en quelque chose, se confier en quelque chose, se confier en lui, comme nous demande la parole de Dieu. On vient de le lire dans la Bible que Dieu nous demandait pas une simple croyance, mais vraiment de baser notre foi, notre confiance en lui. Mais je ne sais pas pour vous, et on le dit d'autant plus dans notre région, dans la montagne, on fait difficilement confiance. Et moi, pour faire confiance à quelqu'un, il faut déjà que je le connaisse. Ça paraît simple, mais pourtant, peut-être quelqu'un, ce soir, est là pour la première fois et m'entend lui dire mais fais confiance à Dieu, mais ne le connais pas forcément. Et j'aimerais vous dire ce soir que la foi vient au travers de la révélation de Dieu. On ne peut pas croire en Jésus, on ne peut pas placer notre foi en quelqu'un si on ne le connaît pas, si on ne sait pas qui il est. Et justement, il a écrit ce livre merveilleux qui est la Bible, la parole de Dieu, qui est Dieu, pour nous dire qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Mais comment connaître Dieu? Comment connaître son Fils Jésus? Comment avoir foi en lui? C'est une vraie question. On va lire dans Éphésiens 3 et au verset 3. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Et l'apôtre Paul, dans d'autres passages, a parlé du mystère de l'Évangile. Et aujourd'hui, ça peut paraître mystérieux, l'Évangile. Dieu peut paraître mystérieux. Et ça peut paraître mystérieux parce que ça va à contre-courant de tout ce qui se dit dans notre société aujourd'hui. Si ce qu'on dit ce soir passait au JT de TF1, ça pourrait choquer ou interpeller. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est peut-être notre société qui s'en est éloignée. Et dans Éphésiens, il nous est dit, c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère. Et là, on voit l'apôtre Paul qui a eu le mystère de l'Évangile, la révélation du mystère, par la révélation de Dieu. Et c'est d'autant plus parlant pour Paul qui a eu cette révélation, mais vraiment physique, de qui était Dieu, de ce qu'il faisait, et il s'est rendu compte que ce qu'il faisait était mal, qu'il a dû changer de voie, changer de manière de faire. Et ce soir, peut-être que Dieu interpelle quelqu'un pour lui dire de réformer ses voies, de changer sa manière de vivre, de mettre sa confiance en Dieu. C'est peut-être un mystère pour nous, pour ceux qui sont incroyants, et peut-être un peu pour nous aussi croyants, parce que là, quand on touche au domaine du divin, nous, simples humains, on peut être vite dépassé. Mais ce n'est pas un mystère pour Dieu, parce qu'il est, il est Dieu. Le mystère de l'Évangile doit nous être révélé. Ce n'est pas inné. Et dans Matthieu 16, au verset 15, je vais le lire pour vous. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et là, on est à ce passage-là où Jésus lui-même interpelle ses disciples. Et Simon-Pierre va lui répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ça ne vient pas de la chair et du sang, ça ne vient pas de nous-mêmes. On ne naît pas avec la révélation que Jésus-Christ est mort pour nous sur cette croix et que nous avons un avenir en lui, un avenir et de l'espérance en lui. Non, ça doit nous être révélé, mais on doit déjà le vouloir. Chercher cette révélation de qui est Jésus, de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour nous, de son plan de rédemption parfait en son Fils Jésus, lui qui a envoyé son Fils Jésus, son Fils unique sur cette croix pour chacun de nos péchés, afin que nous soyons sauvés. La révélation vient de Dieu, révélée par Dieu, par sa parole, quand on cherche dans sa parole. La révélation de Dieu est dans sa parole, dans sa Bible, dans la Bible. Il y a tellement de révélations dans ce merveilleux livre, mais je pense que Jean 3,16, le verset qu'on a vu au départ, la résume parfaitement. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce que je veux vous dire ce soir, c'est ce que Dieu veut vous dire ce soir, c'est qu'il veut passer l'éternité avec vous, c'est qu'il veut que vous passiez l'éternité avec lui, c'est qu'il vous aime tellement, Dieu vous aime. Et peut-être qu'on vous a parlé jusqu'à maintenant d'un Dieu très lointain, un Dieu indifférent, mais Dieu n'est pas un tyran, il est un Dieu d'amour. Et peut-être que dans notre conception humaine, ça nous dépasse. Dieu est immense, mais Dieu est amour, et Dieu est un Dieu individuel pour chacun, pour chacune d'entre nous. Et ce soir, il veut que nous le rencontrions, il veut qu'il puisse agir et nous parler, nous révéler qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Parce que je peux vous parler des heures, mais c'est Dieu qui révèle qui il est. Et je crois qu'il va le faire et qu'il veut le faire ce soir à ceux qui le souhaitent. Qu'est-ce que la foi? Dans Hébreux 11:1, il nous est dit, c'est la définition selon la Bible de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Une ferme assurance en Jésus. Notre espérance, il est mon espérance. Comme on l'a entendu dans ce témoignage, il a changé notre vie et on pourrait être des dizaines ce soir à témoigner de Jésus qui a changé notre vie et qui est notre espérance et en qui nous espérons aujourd'hui. Que Dieu nous montre ce que nous ne voyons pas, comme le dit Hébreux 11, qu'il puisse nous révéler ce soir qui il est et ce qu'il a fait pour nous, pour celui ou celle peut-être qui en doute encore ce soir. Je pourrais parler des heures sans vous convaincre, mais quand Dieu convainc de péché, quand Dieu convainc de qui il est, quand Dieu parle, se révèle à un cœur, ça change les vies, ça transforme de manière irrémédiable et de manière concrète. Ce n'est pas juste une petite croyance, c'est une foi dure et fondée sur quelque chose de solide. Et ce quelque chose, ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Comment avoir la ferme assurance que Dieu existe? Et c'est peut-être la plus grande question de l'humanité. Et peut-être que quelqu'un se dit ce soir, mais j'aimerais vous croire, j'aimerais te croire de Jésus même, mais je ne le vis pas. Et ce soir, c'est le bon moment pour le vivre. C'est le bon moment pour voir Jésus se révéler à notre cœur. Lire, on peut lire, et certains cherchent des croyances ou des manières de combler peut-être une frustration, une paix intérieure qui manque par des tonnes de lectures et toutes ne sont pas mauvaises, mais la lecture nous, nous apporte la connaissance, mais la lecture de la Bible nous apporte la révélation de qui est Dieu. Ce n'est pas un simple livre. Il nous est dit que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est quelque chose. La foi se vit au travers de la révélation de Dieu. Une croyance, une religion, ce n'est pas la propre foi. Ce n'est pas une véritable foi. J'ai marqué la religion est héréditaire, pas la foi. On hérite d'une religion et quand je parle avec mes amis qui sont de croyances, de religion catholique, j'en dis, mais est-ce que t'es chrétien? Et oui, ils me disent, oui, je suis catholique. Et ils vont, je lui dis, mais tu vas à l'église, t'as une relation avec Dieu, tu lis ta Bible, est-ce que tu pries? Ils me disent non. Et des fois, je vais à la messe, je lui dis, ah ouais, tu y es allé quand la dernière fois? Bah, à Noël. Ah ouais, bien, à la messe de Noël pour faire plaisir à mamie. Mais je ne suis pas en train de vous parler de ça ce soir, qu'on puisse vraiment vivre au-delà de ça, au-delà d'une religion. Quand il y a une religion, il y a souvent, on t'invite à la tradition. Et moi, c'est tout ce que je ne veux pas vous dire ce soir. C'est, je ne prêche pas pour une religion quelconque, mais pour un Dieu qui a changé ma vie. Et on est des dizaines ce soir, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore expérimenté. Et ce soir, on aimerait tous, mais vraiment... Je me fais porte-parole, mais que vous puissiez le vivre simplement, mais tellement efficacement, parce que c'est du concret. Dieu n'est pas un Dieu lunaire, complètement déconnecté de nos réalités, mais il y a un Dieu concret dans notre vie de tous les jours. Il veut nous aider, il veut nous guider jusqu'à la vie éternelle. Et je m'éloigne de mon sujet, j'y reviens. Et souvent, on a dans nos amis ou même dans nos églises, on a cette croix, mais on l'a chanté, ce dernier chant ou l'avant-dernier, je ne me souviens plus, mais de cette croix. Et est-ce qu'on se souvient véritablement de ce qu'elle signifie pour nous, de ce qu'elle signifie pour Dieu? Et déjà, nous, on essaye de la symboliser vite parce que Jésus est ressuscité. Mais justement, quand je pense que notre société a perdu cette image, et nous dans notre région, notre si belle région montagneuse, on a des croix souvent à chaque sommet. Mais est-ce que les Haut-Savoyards se souviennent de cette signification de la croix, de ce symbole, et plus qu'un symbole, de cet endroit de libération pour chacun d'entre nous, où Jésus a été cloué pour nous, pour chacun de nos péchés. Pour nous individuellement, s'il n'y en avait qu'un seul à sauver, qu'un seul d'entre nous, ce soir ici présent, je suis persuadé qu'il y serait allé. Ouah, quel immense amour, quelle preuve d'amour immense. Nous avons été créés par Dieu pour avoir cette relation avec lui. Dieu t'aime, Dieu a un plan pour nous sauver, pour te sauver. Et on l'a lu dans Jean 3,16. Et ce plan, justement, c'est cette croix. Et dans cette dernière partie, je voulais parler avec vous ce soir. On a vu que la foi ne suffisait pas, mais je vais vous dire aussi que la révélation ne suffit pas. Encore faut-il l'accepter. Croire que Dieu existe ne suffit pas. Savoir qu'il a envoyé son fils Jésus sur cette croix, cette révélation, vous pourriez l'avoir, vous pouvez l'avoir ce soir, ne suffit pas. C'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Il faut l'accepter. C'est pour ça que j'ai marqué cette troisième partie. Une foi véritable et repentante. Croire ne suffit pas. La révélation de Dieu non plus. Il faut l'accepter. Car on va voir, et on l'a vu dans de nombreux passages, pour ceux qui connaissent la parole, je vais vous le dire ce soir, les démons aussi croient. On a vu aussi Judas, un des 12 disciples qui a passé plusieurs années avec le Christ, qui ne doutait pas, parce qu'il voyait tous les miracles de Jésus, il voyait l'amour de Jésus pour tous ceux qui étaient là à ses côtés. Et pourtant, ça n'a pas empêché de refuser Christ, de même le trahir. Il ne l'a pas accepté. Lui pourtant qui a vu, on a souvent cette phrase, « Moi, je veux bien croire, mais après avoir vu. » Mais ce n'est pas ça la foi. Parce qu'on voit même que Judas, ça n'a pas suffi. Pharaon également. Avec les 10 plaies d'Égypte. Au départ, lui, Pharaon, ne connaissait pas Dieu. Je pense et je suis convaincu qu'il a appris à le connaître, à ses dépens. fur et à mesure des 10 plaies d'Égypte, il ne pouvait pas douter que Dieu était réel et qu'il était derrière son peuple. Mais pourtant, ça n'a pas suffi non plus. Parce que le cœur de Pharaon était dur. Comment est notre cœur ce soir par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'appel de Dieu? Ce soir, Dieu nous cherche, chacun d'entre nous. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois et peut-être qu'il y a des gens qui connaissent tout ce que je suis en train de dire, qui connaissent la Bible, qui l'ont vécu, qui ont vécu des choses fortes avec Dieu. Ce soir, c'est aussi le moment pour vous, pour nous, de reconnecter ou même d'aller un peu plus loin encore. Dieu n'est pas limité et Dieu a quelque chose ce soir pour chacun, chacune d'entre nous. Peu importe où on en est avec lui, il a quelque chose et il veut continuer à nous bénir. Mais alors, je vous ai vendu la recette du salut en début, et je vais vous la dire. Dans Marc 16:16, très beau passage aussi qui nous est dit, je vais lire pour vous. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et là encore revient notre verbe croire. Mais dans mon cours de grec de la semaine, j'ai vu que c'était encore pisteuo. Avoir la foi, placer sa confiance, se confier en lui. Et là, nous avons la recette du salut. Il ne s'agit pas de tout savoir. Il nous est parlé du baptême. Que signifie le baptême? Le baptême signifie l'obéissance à Dieu, à Jésus qui lui-même s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans le désert. Et cette notion de baptême nous parle d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, de mourir avec lui dans ce bassin, d'être plongé et de ressusciter, de ressortir de l'eau comme lui ressuscité le troisième jour dans ce tombeau où il a roulé la pierre comme on l'a chanté encore. Mais il ne s'agit pas de le savoir, il s'agit de le vivre ce soir. Il ne s'agit pas de le croire, il faut vivre la foi ce soir. Placer notre foi en Dieu, une ferme espérance. Mais ça ne vient pas de nous, c'est pas en nous. Demandons de l'aide à Dieu. La foi n'est pas humaine. La foi est justement, moi en tout cas, dans ma marche quotidienne avec Dieu, c'est chaque jour qu'il faut lutter pour demander de l'aide à Dieu, parce que tout me pousse dans notre société, dans mon corps, tout me pousse à aller à l'encontre de Dieu, de la foi, de tout ça. Et même les disciples même vont demander à Jésus de leur augmenter la foi. Cela nous montre que nous avons besoin d'une vraie dépendance à Dieu, parce qu'il est tout pour nous, il est notre foi, il est notre espérance. Et justement, ce baptême symbolise l'acceptation du Seigneur Jésus, pas uniquement comme Sauveur, mais comme Seigneur également dans notre vie, ici-bas. Chrétien signifie petit Christ. Et justement, Christ doit être notre modèle. En tant qu'enfant de Dieu, c'est merveilleux d'être appelé enfant de Dieu. Des fois, je me dis, j'essaye de le réaliser pleinement et waouh, ça me dépasse, mais quelle grâce immense. Il veut notre bonheur. Il a des projets de paix, un avenir et de l'espérance. C'est dans Jérémie 29, 11. C'est mon verset préféré dans la parole de Dieu. Des projets de paix, un avenir et de l'espérance pour nous. Parce que oui, si nous pouvons être sauvés, comme je vous l'ai dit ce soir, si nous choisissons Jésus, c'est parce qu'il y a un choix à faire. Il y a deux chemins. Il y a un verset qui dit « Choisis la vie afin que tu vives ». Mais s'il y a ce choix à faire, c'est parce qu'il y a le paradis d'un autre côté et un enfer. J'aimerais que ça soit autrement, pouvoir vous en parler, mais je serais un menteur si je vous en parlais pas ce soir. C'est qu'il y a un choix à faire, c'est une histoire de vie ou de mort. S'il y a le paradis et la bénédiction éternelle avec notre Seigneur, il y a aussi l'enfer, les souffrances, les grincements dedans. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas Samuel qui le dit, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous met en garde. Et ce soir, choisissons la vie, choisissons Christ, choisissons de placer notre confiance en lui-même. Si nous n'avons pas compris tout ce qu'il est Dieu, j'ai pas compris tout ce qui est Dieu dans tout son ensemble. Et quand je le verrai dans son ciel de gloire, j'aurai plusieurs questions à lui poser. Mais j'ai compris assez pour comprendre qu'il m'aime. Et qu'il a donné son Fils afin que je vive. Et il l'a fait pour chacun d'entre nous. Mais pour ça, il faut que je l'accepte. Il faut que je demande pardon à Jésus pour mes péchés. Dans Romains 3, 23, il nous est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On a juste à demander pardon, à se repentir, reconnaître que nous sommes pécheurs et demander pardon pour être justifiés. » Éphésiens 2, 8 nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. » Arrêtons de croire qu'on est sauvés par les œuvres. C'est déjà de bafouer tout ce que Jésus a fait à la croix et de ne pas lire la Bible, parce que la Bible dit le contraire. Sauvés par la foi seule, la foi en Jésus-Christ. On peut faire les actes aussi bons soient-ils, mais ça ne va pas nous sauver. Les actes découlent de la foi, mais pas l'inverse. Sauvés par grâce, à cause de l'amour de Dieu pour nous. Et qu'est-ce que la grâce ? On arrive en cette période de Noël, et justement, il y a, je ne sais pas si ça arrive encore, mais nous, quand j'étais enfant, on disait, et on entendait, si t'es pas sage durant toute l'année, tu n'auras pas de cadeau de Noël. Et à la fin, peu importe ce que tu as fait, tu as toujours un cadeau de Noël, enfin normalement. Et ça s'appelle la grâce. Parce que la grâce, la définition de la grâce, c'est un cadeau immérité. Et heureusement, parce que sinon j'aurais pas eu beaucoup de cadeaux de Noël. Mais qu'on puisse, au-delà de cette petite blague, qu'on puisse vraiment cerner que c'est vraiment une grâce. Et qu'on ne mérite rien. Heureusement, parce que sinon on pourrait pas en bénéficier. Et pour conclure, ce n'est pas à Dieu de choisir, mais à toi. Dieu a déjà fait le premier pas en donnant son Fils unique. Dieu a fait le premier pas avec nous, simple homme. Quand on s'arrête là-dessus 30 secondes et qu'on se dit, mais waouh, c'est quel genre de Dieu qui nous aime à ce point de faire le premier pas pour nous qui sommes de simples hommes. Quel Dieu incroyable nous avons. Il attend que nous fassions le deuxième pas en retour. Nous avons un choix à faire et ne pas faire un choix, c'est quand même en faire un, pas le bon. Et on a lu dans Jean 3, 14, dans ce passage-là, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce soir, c'est le bon moment pour croire, pour confier sa vie en Christ, pour lui demander peut-être sa révélation, si quelqu'un a besoin de sa révélation. Ou peut-être quelqu'un a juste besoin de faire la paix avec Jésus, de se reconnaître comme pécheur, de peut-être revenir, de redemander pardon. Dieu ne te juge pas, Dieu est toujours là, tendu avec sa main tendue vers toi, son bras d'amour. Si les hommes jugent, Dieu ne juge pas lui. Il regarde au cœur et est tellement content si ce soir tu reviens vers lui. Ce soir, c'est le moment d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, dans ta vie. Viens, ne tarde plus, il y a ce vieux cantique qui « Viens, ne tarde plus », mais c'est le bon moment. Tu as plus qu'à gagner qu'à perdre et tu as peut-être à perdre des années de souffrance loin du Seigneur. Et il est là, il veut t'aider. Et on va se recueillir, on va prier.